Elle ne vient pas aujourd'hui pour vous consoler, il y aura un cours d'éthique à 12h10, midi 10h, cours d'éthique, après la messe. Alors on fera un cours sur le désespoir, ça. Nous avons donc vu, de fait, historiquement, le point de départ de Platon, qui est un point de départ artistique, l'intuition. Platon est un grand artiste, le grand artiste de l'âme. J'ai toujours rêvé à faire ça, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais aimé le faire. Étant donné que j'ai enseigné quand même plusieurs années, Platon montrait comment Platon était le poète, l'artiste de l'âme. De l'âme qui se contemple, les idées en soi qui sont dans l'âme. Et chacun des dialogues montre un des aspects de l'âme, la diversité des dialogues. Il y a une grande montée chez Platon, comme un artiste qui ne connaît pas de difficultés et qui monte toujours davantage. Et c'est sûr que la République est un sommet, c'est une synthèse. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu dans la vie de Platon? Là, ça serait très intéressant de se demander, est-ce que Aristote a joué ce rôle? Il y a un moment de réflexion critique, et qui pour Platon n'est pas premier, c'est d'essayer de sauvegarder ce primat des idées. Et ce qui est très curieux chez Platon, et ça c'est très, très intéressant de le voir, c'est qu'au début, vraiment, l'intuition personnelle des idées est quelque chose d'absolu, et l'expérience et secondaire, tandis que l'expérience prend de plus en plus de place. Or, ça, c'est l'influence d'Aristote. Et je crois que Platon est un grand maître, et comme grand maître, il aime ses étudiants. Il a dû aimer follement Aristote. Et si Platon a eu de l'influence sur Aristote au début, Aristote a sûrement eu de l'influence sur Platon. Et ça, on ne veut pas trop le voir. Il y a un a priori. Et on oublie ce que c'est qu'un maître ou les étudiants plus jeunes que lui, normalement, ont cette espèce d'influence de la jeunesse. Et il y a sûrement, chez Platon, un philosophe, un étudiant, un ami, qui montre l'influence de l'expérience. Et l'expérience, la sensation, reprend beaucoup plus d'importance à partir de la critique que Platon se fait lui-même, une autocritique. Platon est, il ne faut pas prendre Platon comme maître, mais Platon est toujours très important et très intéressant. On ne perd pas son temps à Platon. Et plus on avance dans Platon, plus on doit comprendre la critique d'Aristote. Aristote, c'est l'expérience. Puis après, avec l'influence de la théologie, l'influence de la théologie a sûrement joué un rôle très important. On a Descartes qui a eu des maîtres théologiens. Descartes, pour libérer la philosophie de l'emprise de la théologie. C'est, je crois, Descartes est le libérateur de l'intelligence. Il se veut comme ça, être libérateur de l'intelligence. Et donc, il cherche le point où l'intelligence est libre, où on ne peut pas l'attaquer, où elle est sous ipsémet elle-même, où elle est parfaitement elle-même, je pense. Personne ne peut pénétrer dans le « je pense » de Descartes. C'est une citadelle, une place forte. Et les ponts-levis sont relevés. Je pense donc je suis. Alors voyez, le rôle du je suis qui intervient à partir du je pense. Le je pense a mis en pleine lumière le je, la personne, et la personne va englober l'être. L'être aura relatif au « je pense ». C'est ça qu'il faut considérer. « Je pense donc je suis », c'est relativiser l'être par rapport aux pensées. Et sûrement que Descartes, à ce point de vue-là, est un grand révolutionnaire. Plus exactement, il se veut libérateur de l'intelligence par rapport à la théologie. Et c'est vrai que le théologien, très facilement, ne veut pas cette dépendance de la philosophie. C'est le grand drame d'aujourd'hui. Accepter que la philosophie soit servante, c'est pas commode, parce que la servante peut passer avant la femme libre. On voit ça dans l'histoire d'Abraham. Et facilement, dans la mesure où le philosophe reprend son indépendance, la théologie, alors, à partir de Descartes, va se refermer sur elle-même. Et on aura la scolastique. La scolastique, c'est le phénomène du théologien qui se referme sur lui-même. Je suis théologien. Avec votre philosophie, faites tout ce que vous voulez. Mais vous êtes philosophe. J'ai rien à faire avec vous. Il y a ça. Et le protestantisme jouant, puisque le protestantisme montre que l'intelligence est blessée par le péché, par le fait même, il ne peut pas y avoir de pensée philosophique autonome. Et c'est le théologien qui est source. La philosophie scolastique provient du théologien. Donc elle est soumise, elle n'est plus servante. Elle provient elle provient du théologien. Donc, elle n'est plus servante du théologien, mais elle enfant du théologien, fils du théologien. Vous voyez, c'est très important de comprendre ce tournant. Et on le voit avec Descartes. Kant a renforcé Descartes, Descartes au carré. Et au fond, c'est le même point de départ. Ce n'est plus la réalité, c'est le je pense. Et c'est très astucieux. Il faut bien comprendre que c'est très astucieux. Parce que l'expérience, l'expérience, on est dépendant des sens. Et on est dépendant des réalités sensibles. Tandis que je pense, vous êtes indépendant des réalités sensibles. Et c'est votre intelligence. Donc, votre point de départ de la philosophie est beaucoup plus noble. C'est beaucoup plus noble la pensée que la sensation. Et donc, si je veux avoir une vraie philosophie spirituelle, je commence par « je pense ». Et ceci dure encore maintenant. Puis troisième point de départ, Husserl, où on supprime, on met entre parenthèses l'être. On revient d'une certaine manière à Aristote, le ceci est, mais on est entre parenthèses et. Pourquoi l'influence mathématique ? C'est l'influence mathématique qui fait ça, parce que les mathématiques sont une réflexion sur le possible. Le possible, c'est ceci. Ceci peut exister, ceci. C'est la détermination des choses, c'est la quantité des choses qui reste le possible. C'est l'essence qui reste le possible. Alors, on a à partir de là, la phénoménologie. Donc, vous voyez, trois étapes très importantes à saisir, qui alors montrent le point de départ. Et alors, on voit combien c'est important de saisir le point de départ de la philosophie. Si la philosophie doit être sagesse, le point de départ et la fin se tiennent. Alors, vous pouvez, avec ces trois points de départ, comprendre quelle est la fin de l'intelligence. Chaque fois, vous voyez la finalité. Quand il s'agit de l'expérience, c'est l'être. L'être. Quelle est la finalité de l'être ? C'est l'être premier. S'il existe, donc découverte de l'être premier. Donc, la philosophie qui part de l'expérience, c'est celle qui rôle plus loin, puisque elle est celle qui découvre l'existence de Dieu. Elle découvre l'existence de Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Père, dans son encyclique, montre que seule la philosophie de l'être peut être au service de la foi. Là, ça, il faut en avoir l'évidence, petit à petit, que ce soit pour vous l'évidence de la vitalité de votre intelligence. Votre intelligence se rajeunit tout le temps grâce à l'expérience. Et quelle est l'expérience la plus forte ? L'amitié. De sorte que c'est merveilleux, la vie monastique, pour faire de la philosophie, puisqu'elle favorise le climat d'amitié. Et donc elle favorise d'une façon très étonnante cette recherche de la philosophie. Et ça a toujours été un peu comme ça. On a une communauté religieuse, c'est sûr. Mais il y avait autour d'Aristote une communauté. Et autour de Platon, il y avait une communauté. Et autour de Descartes, il y avait une certaine communauté. Pas beaucoup, puisque c'est « je pense ». Donc, c'est « je pense », « je me suffis à moi-même ». Laissez-moi tranquille, je pense. Donc, je suis. Et vous ne pouvez pas me déloger. Et j'avais levé les ponts-levis, l'image du château féodal. Vous avez levé les ponts-levis. Tant que les ponts existaient, même si le château était entouré d'eau, il y avait le pont qui permettait de passer. Tandis que vous levez ça, et vous êtes à vous-même tranquille. Vous voyez, la tranquillité du philosophe, c'était de se gendarmer contre le théologien. Le théologien, partant de la foi, avait une domination sur le philosophe. Et le philosophe en avait assez d'être dominé par le théologien. Alors il a dit « zut ». Laisse-moi tranquille, je pense. Toi, tu ne penses pas. Et c'est vrai, à côté de la pensée, la foi, Auguste Lecomte le dit, c'est l'enfant. Tandis que la foi, c'est Dieu. Alors, mais la connaissance de Dieu, je dois être un enfant, un tout petit. Donc, je n'arrive pas encore à penser de moi-même. Tandis que je pense, donc je suis. Et votre existence est enveloppée de la pensée. Et vous n'en sortez pas. Votre existence est à partir de votre pensée. Gilson n'hésite pas de dire que, au fond, les deux grandes positions philosophiques, c'est ça, c'est ou l'être avant la pensée, ou la pensée qui domine l'être. Et c'est juste. Ce sont les deux grandes positions philosophiques. Et on y revient tout le temps sous des modalités différentes. Mais au fond, c'est toujours comme ça. Vous voyez, c'est ou l'être est avant la pensée, ou la pensée mesure l'être. Aristote, Descartes. Derrière Descartes, Kant. Descartes au carré. Et puis alors, Husserl, c'est très curieux de voir ce point de vue-là, qui d'une certaine manière se réfugie au-delà de l'expérience et de la pensée, c'est le possible, la mise entre parenthèses de l'être. Puisqu'au fond, toute la dispute était savoir si l'intelligence est avant l'être ou l'être avant la pensée, c'est bien simple, supprimons l'être. Et comme ça, la pensée est pleinement maîtresse d'elle-même. Donc je vais jusqu'au bout sur l'autonomie de la pensée. Je me réfugie dans le possible. Le philosophe demeure dans le possible. L'intelligibilité pure, mathématique. Laissez-moi tranquille, vous n'y comprenez rien. Mais je vous ai déjà dit, il y avait le père Garde et Laurier, dominicain, qui préparait sa sa grande thèse mathématique. Je l'aimais beaucoup, parce que c'était quelqu'un qui pensait beaucoup, mais qui pensait toujours un peu mathématiquement. Je crois qu'il n'a jamais atteint vraiment la métaphysique. Mais c'était quelqu'un qui pensait merveilleusement. Et quand il faisait sa thèse de théologie, sa thèse de mathématiques, je lui ai demandé, mais combien pourront comprendre votre thèse ? Alors il a compté. Il a dit, je crois, 3 mathématiciens. Donc il se situait à côté de ses premiers, et tous les autres n'auraient pas compris. Mais moi, ça m'a été très, très significatif, ça. Vous écrivez une thèse pour 3 personnes. C'est select. Et voyons comment ça se termine en mettant entre parenthèses l'être. Si je mets entre parenthèses l'être, l'intelligence, alors, non seulement elle est première, je pense, mais l'intelligence a levé tous les ponts-levis. Parce que chez Descartes, l'être est quand même le présent. Descartes était un croyant. Si je supprime l'être, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus que le possible. C'est-à-dire, l'intelligence se considérant elle-même est absolument libre de tout. C'est vrai, elle est libre de tout. C'est le possible. Il suffit de montrer que c'est intelligible. Et l'intelligibilité va éveiller l'intelligence pour elle-même. Il n'y a pas d'autre finalité que le possible. Vous voyez, c'est la perte ultime de la finalité. Tant qu'il y avait le dialogue être-pensée, la finalité était ou première ou seconde. Mais elle était là. Il y avait 2 positions de la finalité. Tandis qu'avec Husserl, la finalité disparaît complètement. Et c'est pour ça qu'au terme de la vie d'Husserl, terrible. Husserl se pose pas le problème de Dieu, puisque c'est le possible. Il est possible que Dieu existe. Il est possible que Dieu existe, mais c'est pas ça qui est intéressant, parce que Dieu est impossible, pas impossible, mais il est un des possibles. Et il termine sa philosophie par le point de vue des valeurs. Vous voyez, les transcendentaux sont changés en valeurs. Alors, une philosophie de l'être a les transcendentaux. Une philosophie à la Descartes, où c'est la pensée seule qui est transcendantale. Et la philosophie du ciel, c'est le possible. Vous savez, je crois, là, au point de vue de l'histoire de la pensée, les 3 grandes possibilités. À moins que vous en trouviez une 4e. Si vous en trouvez une 4e, vous serez connu, si ce que vous dites est intelligent. Et c'est difficile d'en trouver une 4e. Parce que ceci est, c'est ou l'être ou ceci. Alors vous pouviez discuter, est-ce que l'attribut est premier ou le sujet ? On peut discuter. Normalement, je dis normalement, le sujet est premier et l'attribut second. Mais lorsqu'il s'agit de l'être, l'attribut est premier. Alors, il y a une espèce d'inversion. L'attribut est premier et le sujet est second. Donc, quand je dis ceci est, le ceci est absorbé par est. Donc, le sujet est, ceci disparaît en fonction de l'être. Alors, la réaction violente, revendication du sujet. Et Descartes, c'est bien cette revendication du sujet. Le sujet est premier. Donc la pensée, il y a quelque chose de très subtil. Hein, parce que la pensée, c'est quand même l'être au suprême degré qui est première. Vous voyez, ratio et modus. Ratio, c'est l'être. Modus, la pensée. Mais comme ce modus est supérieur à tous les autres modus, ce modus va l'emporter. Parce que ce ne sera plus l'être que je regarderai, mais la vie. Au point de vue de la vie d'intelligence est première. Au point de vue de l'être, l'être est avant la pensée. Vous voyez, on touche là tout à fait des choses premières. C'est ça qui est important et intéressant. On doit savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste dans la pensée ou est-ce qu'on va au-delà de la pensée, au point de départ de la pensée, l'être. Donc, nous sommes en présence de ces trois débuts. Je choisis le point de vue d'Aristote, non pas du tout parce que c'est Aristote le plus vieux, pas du tout. Je choisis ce point de vue d'Aristote parce que le point de vue d'Aristote contient tous les autres. Dans le « ceci est contenu « je suis ». Dans le « je suis » est contenu le « je ». Donc, Aristote a un point de départ plus fondamental que tous les autres. Si je prends comme point de départ le point de départ de Descartes, je néglige tous ceux qui ne pensent pas. Vous voyez, cette espèce d'aristocratie de la conscience. C'est ma conscience. Mais il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Votre conscience, est-ce que vous êtes plus intelligent que tout le monde alors? Et je sais que je ne suis pas plus intelligent que tout le monde. Tous les hommes intelligents m'intéressent. Et l'intelligence du petit enfant m'intéresse. Parce que je vois le début de l'intelligence et je sais que j'étais comme ça. Et donc, dans ceci est, je pense, est inclus. Tandis que ceci est, n'est pas inclus dans je suis, dans je pense. Et c'est pour ça que je choisis comme point de départ celui d'Aristote, ceci est. Parce qu'il inclut tous les autres. Tandis que tous les autres laissent tomber quelque chose Autrement, la philosophie s'est restreinte de plus en plus. Vous voyez, elle était avec Aristote très ample. À ce point que Aristote avait une éthique, une politique, une philosophie de l'art. Il avait une philosophie de la nature. Il avait une philosophie du vivant. Il avait une philosophie de la personne humaine. Et sa philosophie lui permettait de toucher Dieu. Tandis que si vous prenez comme point de départ votre pensée, votre pensée ne pense pas à Dieu tout de suite. Vous pouvez penser sans regarder Dieu. Vous pensez d'abord aux réalités matérielles, votre corps, vous-même, votre voisin, l'amitié. Vous voyez, il faut être conscient pourquoi je choisis ce qu'Aristote me dit. Non pas parce que Aristote me le dit et que j'ai de l'amour pour Aristote, mais parce que ce point de départ, ceci est, enveloppe tous les autres. Par rapport à ceci est, il y a le je suis. Je pense. Par rapport à ceci est, il y a le ceci. Mais est. Et donne toute la valeur au ceci. Et donc cette philosophie du ceci m'ampute de l'acte d'être. La philosophie de Descartes m'ampute de considérer mon corps. Et c'est vrai, Descartes méprise le corps. Sauf quand Descartes va mourir, il ne méprisera pas son corps. Tant qu'il est vivant, je peux mépriser. Le bon serviteur, il est très bon, alors je le méprise. Mais quand il est très malade et qu'il vieillit, je commence à le respecter. Je commence à faire attention. Je ne peux pas tout lui demander. Autrement, il arrête. Il se cabre. C'est très curieux et c'est très important. Vous voyez, tout le temps, ayez à la pensée ces trois débuts de la philosophie. Ça, je crois qu'on doit l'avoir toujours pour comprendre ce dépassement de l'être. Au-delà de l'être, qu'est-ce que vous avez ? Le non-être, le néant, rien. C'est l'être ou le non-être. Au-delà de la pensée, qu'est-ce que vous avez ? Ah, j'ai la réalité existante qui me permet de penser. Cette réalité existante qui ne pense pas me permet de penser. Le petit caillou me permet de penser. Il a résisté à ma pensée. Il a été le maître de ma pensée. Il résiste. Donc, je choisis délibérément le point de départ d'Aristote parce que je désire que ma philosophie soit sagesse. Et qu'elle puisse tout regarder, tout ce qui est. Et pas seulement la modalité aristocratique de celui qui pense. Vous savez, on a ce vieux reste aristocratique de dire à son voisin, oh, toi tu penses pas beaucoup, tu ne m'intéresses pas beaucoup. Et ça, c'est très significatif. Alors que si je prends comme point de départ l'expérience, mais celui qui respecte les réalités matérielles respectera davantage encore le vivant, et respectant tous les vivants, respectera le grand vivant et pourra atteindre l'être premier. Donc c'est la philosophie de ce qui est le plus fondamental, qui contient toutes les autres et qui ira le plus loin. Je ne peux pas prouver l'existence de Dieu à la manière de Descartes. Ou plus exactement, Descartes veut prouver l'existence de Dieu d'une manière a priori. Donc il met Dieu dans son intelligence. Il prouve l'existence de Dieu a priori. Il ne comprend pas que découvrir Dieu, c'est découvrir celui qui est avant moi. Et que mon intelligence est capable de découvrir celui qui est avant moi, dont je dépends totalement. Tandis que Descartes reste dans sa pensée. Donc Dieu ne peut exister que s'il est dans ma pensée. Et Husserl va jusqu'à la valeur. La valeur, elle est dans la pensée humaine. Donc, je me saisis, je pars de la philosophie dont le point de départ est l'expérience. L'expérience implique le toucher. Ceci est. Vous ne pouvez pas dire ça autrement que par le toucher. Tant que vous n'avez pas touché, vous savez très bien que la vue peut très bien avoir des hallucinations. On a des hallucinations au désert. Et il y a un désert métaphysique qui est très rude à dépasser. Alors vite, on a une hallucination du désert métaphysique. Et je m'imagine une oasis merveilleuse. Et au fond, c'est ce qu'a fait Descartes. L'oasis la plus merveilleuse au point de vue métaphysique, c'est moi. Moi, je suis. J'existe. Et j'ai vis-à-vis des autres une connaissance beaucoup plus intime de l'être. L'être, il est en moi. Et cet être qui est en moi, je le connais. Je sais sa puissance, sa valeur. Voyez, c'est quand même très cohu et les hallucinations. Si on se coupe des sens, si on se coupe de l'expérience, on tombe dans l'hallucination de la petite oasis. Et l'oasis la plus parfaite, c'est moi. Et chacun d'entre nous, on a l'avantage de vivre dans une oasis. Et de pouvoir se dire, après tout, les autres qui s'occupent d'eux-mêmes, hein, moi je m'occupe de ma petite oasis. Et comme s'occuper de sa petite oasis, on en fait vite le tour, hein, on arrive à se connaître assez bien. Quand on est très âgé, on arrive à se connaître assez bien. Alors on se dit, ah, il y a une possibilité de s'évader, le possible. Ce qui est trop court. Et c'est vrai, c'est trop court quand on n'a pas atteint Dieu, c'est trop court, c'est moi. Alors je me réfugie dans le possible. voyez, cette espèce de quête métaphysique très curieuse, où on se réfugie dans le possible. Le possible, oh, il y a le fulcan mathématique. Je peux toujours raisonner. Je peux. Et les mathématiques ont l'avantage que ça s'applique au réel. Donc c'est pas seulement une imagination, c'est pas seulement une imagination, c'est quelque chose de possible. Alors, je reviens toujours à ce point de départ. Si je pars de l'expérience, mon intelligence, en faisant l'expérience des réalités, s'aperçoit que dans toute expérience, il y a quelque chose que je connais et quelque chose que j'ignore. Dans toute expérience, ce qui suscite en moi de l'admiration, ah, c'est très important de comprendre que la philosophie commence par l'expérience et la philosophie avance par l'admiration. S'il n'y a que l'expérience, je resterai un positiviste. Il n'y a que ce que je connais qui existe. Ce que je ne connais pas n'existe pas. Ça, c'est le raisonnement du positiviste. Parce qu'il veut se rattraper comme dominant la réalité. Alors que la réalité, si petite qu'elle soit, la petite fleur, le petit insecte, la grosse pierre, existe. Et quand je dis elle existe, j'affirme qu'elle est au-dehors de moi, au-delà de moi. Je peux l'imaginer, je peux la dessiner, mais ce n'est pas la réalité. La réalité a quelque chose d'unique. C'est pour cela, parce qu'elle a quelque chose d'unique, que l'admiration est une conséquence immédiate de l'expérience. Quand il n'y a plus d'admiration, l'expérience, très très vite, perd de son charme. Tous les jours, l'ouvrier se rend à son travail. Il fait le même parcours. Et ça ne l'intéresse pas du tout. La question de l'heure l'intéresse beaucoup plus. Il faut arriver à temps. Et quelqu'un qui est un ami, lui, il est beaucoup plus libre. Oh, mais c'est extraordinaire le parcours que tu fais le matin. Il y a des choses intéressantes sur ce parcours. Je ne t'ai pas vu. Il n'y a pas eu d'admiration. Et c'est peut-être ça qui arrête le plus la recherche philosophique. C'est qu'il n'y a pas d'admiration. Nous sommes des positivistes. Petit-fils d'Auguste Comte, hein. Non seulement en philosophie, mais même en théologie. On ne regarde que ce qui a été vécu, uniquement ce qui a été vécu. L'histoire ne fait qu'on montre ce qui a été vécu, rien d'autre. Mais il y a la réalité. La réalité est bien plus que ce qui a été vécu. Parce que ce qui a été vécu a été vécu. Je ne peux pas recommencer. Et très vite, ce qui a été vécu, ça prend de l'ancienneté. Alors je le mets dans les musées. Le musée, c'est la grande découverte. Alors c'est très intéressant, les musées, ce qui a été vécu. Mais celui qui est gardien des musées, sauf le gardien des cèdres du Liban. Ça, c'est un musée très particulier. Et le gardien des cèdres du Liban, je vous affirme, c'était quelqu'un qui aime ses cèdres, qui aime sa famille. J'ai trouvé chez lui une expression extrêmement belle. Quand je lui demandais combien il avait d'enfants, il a dit « Mon épouse m'a donné 6 enfants. » Mon épouse m'a donné 6 enfants. Et j'avais retrouvé cette expression chez quelqu'un. Ça, c'est le gardien des cèdres du Liban. C'est bon comme expression. Mon épouse m'a donné 6 enfants. Alors, le respect de l'épouse augmentait avec le nombre des enfants. Et regardez, là, celle qui était pour lui source. Ça, c'est le réalisme. Et ce réalisme qui va avec l'admiration. Il admirait son épouse. Elle lui a donné 6 enfants. Elle était pour lui source des 6 enfants. L'expérience, normalement, doit susciter en nous l'admiration. Mais pour susciter l'admiration, il faut comprendre que l'expérience provient de la réalité et que l'expérience saisit quelque chose de la réalité. Mais que cette expérience est dépendante de la réalité et que la réalité a quelque chose de plus secret que ce que je connais par l'expérience. D'où l'admiration qui suscite en moi l'interrogation. C'est très important de voir que le point de départ de la philosophie est très vrai, c'est l'expérience, mais une expérience qui est source d'admiration. Dans votre vie, faites un petit examen de conscience intellectuelle. Il y a combien d'expériences qui suscitent en vous l'admiration ? Est-ce que vous ne fermez pas sur l'expérience ? Je connais. Est-ce que toute expérience n'a pas suscité en vous l'admiration ? Je connais quelque chose, mais dans la réalité, il y a beaucoup que je ne connais pas. J'ai affirmé que cette réalité existait. Ah, voyez ! L'existence de cette réalité, elle vous échappe. Elle maintient en vous l'admiration. Ce qu'est cette réalité, vous le possédez. Mais son existence, vous ne la possédez pas. Et elle éveille en vous l'admiration. Oh. L'admiration consiste donc à dépasser l'intelligibilité de ce que j'ai expérimenté et d'être en face de quelque chose qui me dépasse. L'être de cette réalité, ça me dépasse. Son existence me dépasse et suscite en moi l'admiration. Alors vous voyez que quand on est blasé, et ça arrive très vite, il faudrait regarder toutes les sources qui sont pour nous quelque chose qui nous blase. Être blasé, c'est ne plus avoir aucune admiration. Le positiviste est blasé. La science nous dira, et la science, hein, faites ça porter à votre voisin. C'est vous qui devez chercher. C'est vous qui devez grandir. C'est pas l'autre. C'est vous. Or, je ne peux grandir que s'il y a en moi source d'admiration. L'admiration est capitale. Je regarde. Et je reviens. Et je reviens. Et plus je regarde et plus je reviens, plus mon admiration augmente. C'est étonnant, une petite fleur. Elle a poussé pour moi. Et elle n'y pensait pas. Comment ça se fait que cette fleur est comme ça, que l'autre est comme ça, que l'autre est comme ça? Cette diversité infinie de la réalité. Cette diversité qui me met en admiration. Alors, ordinairement, je suis en admiration de voir un beau paysage. Mais il n'y a pas que le beau paysage. Il y a aussi la réalité toute simple, quotidienne. Elle est quotidienne, alors elle empêche l'admiration. Ah, tiens, le quotidien est source d'abêtement, est source de supprimer l'admiration. Et si vous supprimez l'admiration, vous supprimez la possibilité de grandir, d'aller plus loin, de connaître quelque chose qui s'impose à vous et que vous ne connaissez pas. C'est curieux, ça. Et c'est quand même très intéressant. Au fond, plus je connais, plus je devrais admirer. Or, il y a cela que quand je connais, je n'admire plus. Et que très facilement, la connaissance arrête l'admiration. Alors, il faudrait peut-être distinguer deux espèces de connaissances. Une connaissance de la réalité qui est source d'admiration et une connaissance qui supprime l'adoration, qui supprime l'admiration. Et c'est vrai. Il y a des connaissances qui suppriment l'admiration et qui me met dans le quotidien. Oh, je sais, je connais. Oh, je sais bien. Je crois que la connaissance qui suscite l'admiration, c'est une connaissance qui touche la réalité dans ce qu'elle a de transcendant. Dans ce qu'elle a d'admirable. Alors, l'admirable, c'est toujours le transcendant. C'est l'être de cette chose. C'est son être. C'est pas ce qu'elle est, mais c'est son être. Son être m'échappe. Ce qu'elle est, ah, je connais. J'ai cherché dans le dictionnaire, je connais. Et on se réfugie sur la connaissance du dictionnaire. Et le dictionnaire, il vous fait connaître la quiddité des choses. Il vous donne des définitions. La quiddité des choses. L'expérience vous fait toucher la réalité qui existe. Ah, voilà. Une connaissance purement quiditative ne suscite pas l'admiration. une connaissance qui touche la réalité existence suscite l'admiration. Alors ça, c'est capital. Il n'y a de connaissance philosophique que grâce à l'admiration. C'est par l'admiration que ma connaissance métaphysique va s'alimenter, va creuser toujours plus. L'admiration, c'est je connais quelque chose, j'ai expérimenté ça, et je sais que ce quelque chose qui existe m'échappe. Alors, ce qui est important, c'est justement de comprendre que l'admiration est source d'interrogation. Donc, il faut bien comprendre ces trois premiers moments. L'expérience, l'admiration, l'interrogation. Vous avez ces trois moments. Vous interrogez. Et vous interrogez à partir de l'admiration. Quand vous n'admirez pas, vous n'interrogez pas. Connu. Connu. Je le sais. Ah, j'ai déjà vu. Je sais bien. Et au fond, nous sommes comme ça. Nous aimons collectionner le connu. Nous aimons d'invétorier, de classer le connu. Les musées collectionner le connu. Et c'est très bien les musées, c'est pas la réalité. C'est le monde de l'homme. C'est pas le monde de Dieu. Nietzsche dirait ça. Quand je vis un musée, je dis « Oh, comme l'homme est grand !» Quand je regarde la nature, « Oh, comme Dieu est grand !» Voyez, l'admiration, c'est très bien les musées pour connaître la grandeur de l'homme. Mais le musée a tout remplacé. Et la plupart du temps, les gosses, quand ils ont le musée, et ce qui est encore pire, c'est la télévision, l'expérience des autres, c'est pas la vôtre. Alors, l'expérience des autres, vous la connaissez par l'intelligibilité qui se communique. Alors, on reviendra sur ces trois moments. Expérience, admiration, interrogation.